entrée du Mboujima au Kassai oriental. J'ai réfuté totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de notre. L'Association africaine de défense des droits de l'homme en République démocratique du Congo, AZADO, a publié un rapport sur les droits à la santé en République démocratique du Congo. Ce rapport dresse un état des lieux sombre des établissements hospitaliers publics congolais, plus particulièrement ceux de Kinshasa. Aussi, ces documents indiquent que l'accès aux soins de santé en République démocratique du Congo constitue un défi majeur pour les populations pauvres. L'AZADO recommande donc au gouvernement, notamment d'entreprendre la réforme du secteur de la santé afin de garantir un meilleur accès aux soins de santé à tous les citoyens en cas de maladie. Comment commentez-vous cette actualité? Composez le 081 890 63 15 pour votre intervention en direct. Vous pouvez aussi nous rejoindre à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous déposer vos commentaires sur notre page Facebook. Titi Poutou et Pierrot et Lameji sont à la réalisation de ce programme mis en onde par Paul Badeniam. J.R. Lungembo est au micro et à la coordination et Nicole Ngaka à la supervision. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
L'accès aux soins de santé est l'un des droits humains universellement consacrés et reconnus au niveau international, régional, par plusieurs instruments juridiques, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et la Constitution du 18 février 2006 de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, une fois encore, bienvenue dans cette émission. Nous avons dans ce studio Jean Keba, directeur chargé de la protection de personnes et leur droit à la santé. Jean Keba, vous êtes avec nous. Merci d'être venu. Bonjour.
Bonjour, JR.
Alors, au regard de la dégradation de la situation sanitaire au pays, le rapport que venait de publier, donc l'AZADO, pose la question de savoir si la réponse du gouvernement est proportionnelle aux défis qui se posent dans ces domaines. Quels sont ces défis?
Le défi d'abord, c'est l'état des infrastructures hospitalières. Ce que le rapport a porté sur un échantillon d'hôpitaux de Kinshasa, parce que nous ne pouvons pas faire tout le pays au même moment, aux établissements publics. Et lorsqu'on regarde les installations d'abord, ils sont très vieux, irrégulièrement entretenus ou pas entretenus du tout. Et il manque de tout, il n'y a pas de pharmacie publique au niveau des établissements médicaux qui ont fait l'objet de l'enquête. Et au niveau du personnel soignant, il y a des problèmes parce que le personnel n'est pas suffisamment motivé, il se plaint d'être mal rémunéré, dans des conditions très difficiles, au point que l'attention vis-à-vis des malades est liée à leur pouvoir d'achat ou leurs possibilités. Et il y a aussi le problème d'abord de la formation du personnel soignant. Depuis un temps, il y a plusieurs établissements qui forment des médecins et infirmiers sans de laboratoire ou des équipements exigés. Et ce qui fait qu'au niveau même aussi de leurs prestations, il y a des limites. Et puis le défi, c'est surtout la pauvreté de la population. Parce que quand on regarde, le gouvernement ne consacre pas un budget au fonctionnement des hôpitaux publics. Et ceci fonctionne avec les frais qu'ils reçoivent des malades, ce qui fait que ce sont les malades qui doivent faire tourner les établissements et assurer leur fonctionnement. Et lorsque nous regardons le niveau de revenus de la population congolaise, et en croire aux syndicalistes congolais, il y a seulement 2% de la population congolaise qui a un emploi formel. Donc c'est ce 2%-là qui peut être à même, de par ce revenu qui est constant, de pouvoir faire face à ces frais. Mais les autres doivent attendre la famille, et comme conséquence, beaucoup ne vont pas consulter des médecins parce que les frais sont énormes, ou ceux qui y vont. Il y a des cas de ceux qui doivent mettre en gage tous leurs avoirs, les téléviseurs, congélateurs pour compenser les soins, d'autres qui fuient ou qui sont retenus pour non-paiement de la facture, dont les défis sont énormes, et ça demande que le gouvernement, qui a l'obligation de par les instruments qu'il a ratifiés au niveau régional et international de pouvoir assurer les soins de santé puissent allouer une attention particulière à ce secteur.
Oui, oui, encore vos propos, Monsieur Jean, cet état des lieux est déjà connu de tous. Quelle est la nouveauté qu'on peut tirer de ces rapports?
Bon, il n'y a pas de, ce sont des faits qui sont vécus tous les jours, qui sont connus, mais il fallait avoir des éléments beaucoup plus concrets et pris à la source pour les démontrer. Et nous avons été poussés d'abord en train de cette enquête par d'abord l'interprétation de certains hommes des médias qui nous disaient que le droit à la santé c'est un des droits humains, vous n'en parlez pas. Les malades ainsi que leurs familles, il y a eu des cas de décès, des personnes qui étaient à la consultation, l'intervention a tardé parce qu'ils n'étaient pas en mesure de payer les frais de l'affiche. Et tout ça avec la grève des médecins qui avait commencé et vis-à-vis de laquelle le gouvernement était pratiquement indifférent. Nous avons été pour ça pouvoir faire un peu un état des lieux, surtout que la santé dans la législature passée faisait partie des 5 chantiers de la République. Donc pour voir si avec la publicité faite au niveau de ce chantier, il y avait des moyens qui étaient faits déversés à ce secteur, si la situation
s'est créée. Donc ce rapport n'est qu'un rappel sur ce que, disons, tout le monde, les communs des mortels, observent.
Bon, non seulement un rappel, pour nous aussi, c'est une façon de mettre l'État congolais face à ses engagements et ses obligations. Puisque le droit à la santé, c'est un des droits humains, comme je le dis. Et il faut que chaque programme du gouvernement puisse consacrer un minimum d'efforts, de façon à s'assurer que la moyenne des Congolais qui accèdent aux soins augmente d'année en année. Mais contrairement, c'est connu, mais on va de recul en recul. Il y a des hôpitaux qui ne sont plus fréquentés parce que il n'y a pas d'équipement. Ou ceux qui y vont se trouvent abandonnés, chacun doit faire face selon ses possibilités. Et tout cela, l'État semble dormir comme c'est un pronom, mais c'est un engagement. Il a l'obligation de pouvoir assurer aux Congolais l'accès aux soins de santé.
Voilà, vous avez dit, évoquant donc le mauvaise condition de travail et le faible niveau de rémunération, disons, ces rapports parlent de la mauvaise foi du gouvernement qui ne respecte pas les engagements. Vous voulez dire quoi dans ce rapport?
D'abord, quand vous considérez le pourcentage, d'abord le budget de l'État congolais est très faible par rapport aux besoins, à la taille de la population, aux défis qu'il doit relever. Mais quand vous connaissez ce budget qui est déjà maigre, vous voyez le pourcentage qui est consacré à la santé, et cela démontre quelle est l'attention que le gouvernement accorde à ce secteur. Puisque plus le secteur est prioritaire, plus on y accorde suffisamment de moyens, de façon à pouvoir le développer. Et dans le rapport, il y a quelque chose à rectifier par rapport au pourcentage qui est donné par rapport au budget 2013. Mmh. Nous avons parlé de 9%. Ça, c'était la première monture du budget qui était présentée à l'Assemblée.
2000, oui.
Mais quand il y a eu la réélecture au niveau de la présidence, ces budgets ont encore été revus à la baisse, donc soit 4%. Alors que quand vous regardez les frais alloués au gouvernement, à la présidence de la République, au Parlement, n'a pas été bougé. Alors que c'est là qu'on pouvait faire des sacrifices. Pour quand même assurer à la population les soins de santé. Et vous regardez le taux de la mortalité journalière. Parce que le rapport, on n'a pas eu d'éléments par rapport à cela, parce qu'il y a eu un blocage. On a trouvé qu'il y a une interdiction d'accéder aux informations relatives aux décès dans des hôpitaux. Instruction de ne pas le ministre de la Santé. Et on n'a pas pu. Mais d'après les médecins, la moyenne serait de 100 morts par jour, dont 40% au niveau des hôpitaux et 60% à la cité. Donc ça pose qu'il y a un problème sérieux. Et si le gouvernement prenait les choses au sérieux, il devait allouer
alors,
des moyens
suffisants. Alors qu'est-ce que le rapport recommande aujourd'hui?
Donc ce que nous recommandons d'abord, il faut d'abord savoir que le point de départ, c'est qu'il n'y a pas une volonté politique de la part des autorités, soit au niveau du gouvernement, encore moins au niveau de l'autorité budgétaire qui est le Parlement, pour relever le niveau des soins de santé. Donc l'État doit devoir chercher à définir une politique qui puisse garantir à tout le monde un accès normal aux soins. Puisque le taux de chômage est trop élevé, au point qu'on n'en connaît même pas le chiffre exact, mais la majorité de la population congolaise ne travaille pas. Donc on n'a pas de ressources pour se prendre en charge. Donc il faut développer, engager un débat, qu'on puisse définir quelle politique, soit soutenir... engager des réformes pour qu'on ait seulement des mutuelles de santé où tout le monde, ceux qui travaillent, peuvent, avec le minimum qu'ils peuvent, donner une contribution. Mais en cas de maladie, quelle que soit la situation, qui soit à votre prise en charge, avant votre considération. Et ceux qui n'ont pas d'emploi aussi, on doit en tenir compte pour assurer l'accès de santé à tout le monde. Et cela demande qu'il y ait deux réflexions. Il y a des pays qui ont développé déjà ce genre de structure. On peut s'en inspirer pour arriver à relever aussi, à garantir aux Congolais l'accès à la santé.
081-890-6315.
Parole aux auditeurs.
Nous avons le premier auditeur en ligne, Modeste, qui est à Kananga. Bonjour Modeste. Modeste, vous êtes avec nous à Kananga? Voilà, nous prenons plutôt Galvani Placide, qui est à Mbujimayi. Galvani, bonjour. Voilà, Nigal Galvani, on va tenter encore avec Sylvain qui est à Kinshasa. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, je suis avec vous. Bonjour JR, et surtout très bon début de la semaine à tous. Hein.
Merci Sylvain, vous avez la parole.
Oui, merci. Je commence tout d'abord par saluer l'invité qui est sur le plateau, qui a fait d'ailleurs une brillante introduction. Je salue aussi le rapport de l'ASADO. Et là, à l'instar des autres organismes internationaux qui, en publiant les rapports, renvoient la RDC toujours à la zone rouge. Je suis vraiment très inquiet de constater ici à Kinshasa, certains hôpitaux, avec leur fonctionnement, ils laissent vraiment à désirer. Et figurez-vous quelle peut être alors la situation à l'arrière-pays. Ici, il faut voir en amont l'État. Il y a d'abord la charge première de la santé de sa population. Essayez de faire un tour du côté de nos hôpitaux. Vous trouverez que c'est très grave, c'est même mortel, c'est vraiment navrant. Alors, on se pose la question, qui a la mission de faire quoi dans ce pays? On se pose la question, est-ce que le Parlement essaye de voir certains problèmes de base de sa population d'abord? Et comme réponse, moi, à mon avis, je pense qu'il y a l'absence de leadership. Vous prenez ce que l'ASADO vient de dégager, vous vous rendez compte que oui, c'est une vérité. Une vérité, donc l'État a ce temps-là, cette opportunité-là, et surtout exprimer la volonté politique pour pouvoir équiper les hôpitaux, pour pouvoir mettre à jour le personnel qui travaille et aussi améliorer le pouvoir d'achat des populations, parce qu'au départ, le problème est socio-économique ici à la population. Donc, tant que la population va continuer à végéter, et vous trouverez que l'accès aux soins ne sera pas facile. Au lieu de se faire vacciner, il y en a qui préfèrent rester à la maison, il y en a qui préfèrent attendre jusqu'au moment où les symptômes seront déplorables, à ce moment-là, on fait recours à l'hôpital, sinon on n'a pas le pouvoir de chaque fois se faire examiner. Mais vous sentez que le niveau de vie est très bas. Donc, c'est ce que nous déplorons. Et le ministère, mais au pays, je regrette beaucoup et infiniment, si les gens doivent continuer à s'inventer, s'attribuer des cotations avec distinction, etc., comme on l'a fait la fois passée au gouvernement, mais ça, je regrette. Mais est-ce que réellement le travail qui est abattu est vraiment clair et visible et surtout rentable. Je me rappelle vers les années 90, si je ne me trompe pas, 94, il y avait quand même de ces pays-là, Afrique du Sud, Zimbabwe et d'autres qui venaient se faire soigner chez nous. Mais pourquoi cela a changé? Vous vous trouvez que c'est tout un tabou. Et qui est l'auteur de ces tabous? C'est l'État que je qualifie irresponsable que nous avons dans ces pays qui ne voient pas qu'il y a un danger, qui hypothèque et qui voit la santé de ses habitants. Donc, c'est tout à fait navrant et je ne m'amuserai pas de proposer n'importe quelle observation, sinon ou réforme, parce que d'abord, il n'y a pas de réformateur. Comment arriver à envisager beaucoup de réformes
les
réformateurs ne se sentent pas être dans son assiette. Donc, c'est ça le problème aujourd'hui. La santé est un bien précieux on doit nous garantir cette santé-là.
Voilà, merci beaucoup Sylvain, vous saluez ces rapports. Tout de même, vous êtes inquiet de constater que le fonctionnement par rapport au rapport dressé par la ZADO, le fonctionnement des établissements hospitaliers laisse à désirer, en tout cas pour les cas de Kinshasa, et vous dites que le cas de Kinshasa, c'est l'arbre qui cache la forêt, ça peut être pratiquement le même film ou la même photo à travers les pays. Alors l'État, qui est le premier responsable de la santé des populations, doit prendre ces problèmes à bras le corps pour aider tant soit peu la population à trouver la solution. Alors vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que le Parlement fait concrètement pour essayer de prendre aussi ces problèmes à bras le corps? Et là vous concluez en disant qu'il y a l'absence de leadership, parce que au départ c'est un problème socio-économique et que il faille donc éviter de s'attribuer des cotations, parce que si on fait un recul, on se rendra compte que vers les années 70, il y a des pays voisins ou d'autres pays qui venaient quand même recourir aux soins de santé dans nos différents centres hospitaliers et qui avaient de grandes réputations. Merci beaucoup Sylvain. Modeste, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Gérard, je salue l'invité ainsi que tous les compatriotes de la radio.
Oui, votre point de vue, Modeste.
Oh oui, par rapport à la thématique, moi je me suis rendu compte que les rapports situés par cette association africaine des droits de l'homme est vraiment un panorama sur l'état vraiment des établissements sanitaires. Au regard du respect des droits, je me suis rendu compte que l'état des lieux sur les établissements sanitaires vraiment va de mal en pis. Dans quel sens? Donc, pour promouvoir le bon fonctionnement des établissements, il faudrait qu'au regard du respect des droits humains, qu'on puisse tenir en compte un certain national d'artères ou d'artères bloquées. À savoir, nous avons la première affaire, moi je serais serré dans le principe tel que qui se soit médicaire. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, c'est quand même quelque chose, un principe de beau. Il faudrait retenir dans certains domaines de la vie du peuple congolais. Vous savez, aujourd'hui, dans le ministère de la Santé au niveau national, tous les personnels, je ne pense pas que tous les personnels seraient vraiment du domaine sanitaire. Et puis, si on serait vraiment en train de recruter n'importe qui au ministère de l'Enseignement, la gestion vraiment du secteur sanitaire ne sera pas vraiment meilleure. Il faudrait qu'on puisse recruter un homme qu'il faut à la place qu'il faut.
Non, mais je crois que Modeste, je crois qu'on va, on va quand même porter une précision. Hein. Je crois que parmi les ministères où depuis la nuit des temps ou depuis toujours a eu à la tête de ce ministère que de personnes. En tout cas professionnel, hein, c'est-à-dire de médecin, vous ne verrez pas, bon, en tout cas il y a quelques exceptions près, mais dans la plupart des cas il n'y a eu que des médecins qui ont eu à diriger ce ministère. Donc là, à ce niveau, le problème ne se pose pas. Je crois que c'est des gens qui connaissent bien le secteur et qui sont censés au fait avoir des éléments, des réponses aux défis que nous relevons en ce moment. Donc de ce côté-là, le problème ne se pose pas. Mais peut-être dans un autre domaine, comme l'a évoqué Sylvain tout à l'heure, qui dit qu'il y a au fait un problème qui devait être vu du côté de la révision du budget, hein, de la part allouée à la santé, qui pourrait aider, et aussi l'amélioration des conditions socio-économiques des populations.
Je suis de ce point de vue-là, mais avant que je puisse continuer, je pouvais quand même évoquer un certain amalgame qui s'est créé dans un ministère, quelqu'un qui avait dans le ministère de vie. Par exemple, Machoko Mamba, qui était le patron de ce ministère-là, n'était pas du domaine...
Modeste, ne citons pas les noms des gens, hein, parce que là, ne citons pas les noms des gens.
Alors, merci beaucoup, pardon pour avoir
oui. Les noms des
gens. Et puis, je procède pour dire que si jamais on recrutait un personnel qu'il faut, à la place qu'il faut, vraiment, ça ne serait pas bien dans ce domaine de la santé. C'est comme un jour, dans un mandat, comme je l'avais déjà dit, un ministère qui avait été chapeauté par quelqu'un qui n'était pas qualifié dans son domaine. Alors, je pense vraiment, par conséquent, si la fondation est mal bâtie, vraiment, les toits ou la comité pourra vraiment aller de mal en pis, alors il faudrait qu'on puisse recruter un homme qui peut. Par rapport à la deuxième artère, je vous demanderai...
Voilà, j'aimerais bien un peu avoir une précision modeste. Vous souhaitez que, dans les jours à venir, qu'il n'y ait pas de médecin à la tête du ministère, c'est ça?
Non, je demande par rapport aux chevauchements qui se sont commis dans d'autres ministères. Je voudrais fait qu'on puisse vraiment marcher dans les principes tels que l'homme qui prend la place. Mais comme vous m'avez bien fait que dans le ministère de la Santé, il n'y a pas justement un chevauchement, mais il y a quelqu'un qui prend la place quand même.
Voilà, parce que nous parlons du ministère de la Santé, donc on ne peut pas, nous n'allons pas nous égarer. Hein. Le sujet du jour ne concerne pas d'autres ministères, nous sommes dans le secteur de la santé. Merci Modeste d'avoir appelé. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Merci à vous aussi.
Vous avez la parole, Gaston.
D'accord. Et contrairement à mon frère et son ami Sylvain qui est appelé de Kinshasa, qui a abordé l'aspect sur le plan institutionnel, nous, quant à nous, hier, on était honorés dans le cadre d'une association là de Mama Wongo de recevoir parmi nous la femme du président de l'Assemblée nationale. Et on a y abordé avec elle, entre autres, les problèmes de la santé dans notre pays. Et nous nous sommes dit ceci. Nous devons, à notre avis, être propres. Mais aussi boire et se laver de l'eau propre. Manger une bonne nourriture. Nous devons empêcher les mouches, les moustiques, les poux et les pousses, les rats et les souris, les chiens d'entrer à la maison. Nous devons connaître les maladies. Nous devons être vaccinés. Nous devons parier souvent avec les médecins et l'infirmier. Donc si vous êtes malade, vous devez aller à l'hôpital ou à une dispensaire, ça c'est intéressant, pour se faire soigner et se faire examiner. Mais aussi la saleté, les ordures, les cabinets, les poussières attirent ces animaux que je viens de citer là. Il faut les éviter. Nous devons aussi avoir la culture de faire le secourisme, c'est-à-dire avoir une pharmacie familiale. Lorsqu'il y a un cas qui se présente, une maladie, on peut accompagner les blessés ou les malades à partir de là et l'acheminer à l'hôpital pour qu'ils soient soignés. Donc, toutes ces informations ici sont très importantes. Je pense que l'État a fait sa part ici, entre autres, équiper les hôpitaux pour que la population puisse avoir l'accès
aux soins de santé.
C'est impossible. Et puis, la population aussi doit appliquer d'autres règles que je viens de dire là. C'est très important pour que la santé dans notre pays soit améliorée. Vous me suivez là?
Oui, allez-y Gaston.
D'accord. Pour conclure, je vais tout simplement dire que par rapport au point que je venais de dire ici, c'est très important. Vous savez que nous n'avons pas de l'eau propre. Nous n'avons pas de l'eau propre. Comment nous pouvons nous empêcher de toutes ces maladies-là au moment où nous vivons avec des insectes, toutes ces choses-là? Nous ne sommes pas vaccinés. Donc, il serait bon que la population sache qu'il y a des règles à respecter pour vivre longtemps, pour vivre en bonne santé.
Voilà,
aura une amélioration. Et nous battons par rapport à ça. Le gouvernement ne fait rien, nous, la population, s'est dit, dans le cadre des organisations.
Donc, si je comprends bien.
Qui relève de la compétence du gouvernement pour pallier aux faiblesses du gouvernement. Au lieu à tout moment, commencer à penser que c'est seulement le gouvernement qui doit résoudre au moment où tout le monde est en train de mourir.
Voilà. Si je comprends bien, Gaston, vous nous mettez en face de responsabilité des uns et des autres. Et la responsabilité est partagée entre l'État et les populations. Alors là, le rapport de la ZADO fait mention de la responsabilité de l'État, mais en amont, vous souhaiterez que, en fait, la population ou les populations puissent travailler pour la protection de leur milieu, d'abord la conservation. Il faudrait bien éviter qu'il y ait des maladies.
Lui-même l'a dit, l'invité qui est là l'a dit. Nous, on a compris une chose. Et puis, on va aller à l'encontre de toutes ces organisations qui existent actuellement. Nous, on a compris une chose. C'est normalement, le travail que les associations doivent faire, c'est ce travail sur André Fécoua.
De sensibilisation.
Informer la population, mais aussi interpeller le gouvernement. Mais vous allez constater qu'ils ont tendance à interpeller le gouvernement au moment où on a une population non instruite, qui est difficile à gérer, voilà. Moi, je pense qu'il faut relever le niveau de cette population, à mon avis.
Avec
on ne peut pas prétendre avoir un développement de telles populations. Donc, à mon avis,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un problème dans le secteur de santé parce qu'il y a un déficit d'information. C'est ça, hein?
Tout à fait.
Merci beaucoup, Gaston, d'avoir appelé. Théophile, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour Pierre, bonjour à l'invité.
Votre point de vue, Théophile?
Mon point de vue est celui-ci. On peut parler de la santé lorsqu'on parle de l'homme. Je sais que notre gouvernement, l'État congolais, a déjà fourni un effort dans le cadre de la reconstruction et pour la réhabilitation des institutions hospitalières et la formation des médecins, des infirmiers et autres. Mais néanmoins, comme vient de le dire mon prédécesseur, il faut que l'homme, l'individu congolais lui-même, considère ce qu'il doit faire pour sa propre santé d'abord, avant de voir les structures hospitalières, il faut qu'il soit lui-même d'abord le soigneur de sa santé par la propreté de sa maison, de son corps et de son milieu, donc de son environnement. Et je pense aussi qu'il y a un problème. Il faut que l'État, dans ses propres responsabilités, puisse voir d'un bon œil la formation des médecins dans nos universités et nos instituts médicaux, et de formation médicale. Il y a un autre problème. Est-ce que les cadres qui travaillent dans le secteur de la santé sont-ils tous en mesure de travailler? Parce qu'il y en a qui totalisent déjà plus de 50 ans de service, qui doivent aller en retraite, qui sont déjà fatigués. Quelquefois, leur prise en charge des malades présente un déficit. Il y a aussi le problème de mutuelles de santé. Il faut que l'État encadre ces mutuelles de santé qu'il puisse permettre à toute la population, non seulement la population ouvrière, il y a la population rurale qui n'a pas la possibilité d'accéder à des mutuelles de santé. Il faut que soit organisé dans notre pays les mutuelles de santé pour la prise en charge de la population. Je crois que si on tient compte de ces éléments-là, le rapport de l'ASADO peut être soutenu et peut être vu de bon oeil.
Merci beaucoup Théophile. 081-890-63-15.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Jean Keba, vous êtes notre invité, vous avez suivi les interventions des uns et des autres. C'est vrai, il y a eu des questions directes et aussi quelques commentaires faits par les uns et les autres en rapport avec cette publication de l'ASADO autour des droits à la santé. Que répondez-vous à tous ces intervenants de tout à l'heure?
Ok, de par les interventions enregistrées, je comprends que c'est une question qui intéresse tout le monde. En commençant par Sylvain qui a appelé de Kinshasa, il a posé le problème. Je crois que le problème qu'il pose retombe encore sur l'établissement de l'éducation. Quand il dit la population doit savoir ce qu'il doit faire, se laver les mains, tout ça, c'est aussi une des charges qui revient à l'État. Et cela ne veut pas dire que nous dispensons la population de toute responsabilité. La responsabilité est partagée. Mais vous savez, quand une population n'est pas formée, n'est pas instruite, dont même les règles minimales de maintien de l'environnement propre ou de se prendre en charge sur le plan hygiénique, il ne les connaît pas et il est exposé encore. Et ceux qui disent que non, on condamne l'État, on ne condamne pas l'État gratuitement. Puisque quand la population est bien éduquée, donc à partir de la COP primaire, on a pris les l'hygiène, on sait aussi comment aménager l'environnement autour de soi. Et on sait, c'est présent certaines maladies. Mais quand l'État n'accomplit pas sa responsabilité en éduquant convenablement les citoyens, et comprenez que ces citoyens deviennent encore un problème pour eux-mêmes et pour l'État. Si l'environnement est détruit dans tous nos milieux de vie, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce qu'ils font.
Oui, parce que ça, c'est un problème. Les gens ne comprennent pas. Gaston l'a dit, que le travail qui devait être fait, en principe, par les organisations non gouvernementales, qui viennent en appui, et notamment au gouvernement, en ce qui concerne d'ailleurs la sensibilisation, ce travail-là n'est pas fait correctement. Au lieu directement de se mettre à attaquer, pourquoi ne pas en amont sensibiliser, donner de l'information à cette population, afin de le mettre à l'abri, c'est-à-dire, c'est une façon de prévenir les dangers qu'il pourrait courir. Parce qu'on sait que l'état des lieux est déjà connu.
Non, cela n'est pas vrai. Ce travail est fait. D'abord, il faut savoir que c'est un travail d'abord qui revient à l'État. Les organisations viennent appuyer ce que l'État devait faire. Et ça, bien que l'État ne le comprend pas, souvent on dit l'État, D'abord, c'est l'État qui
doit former. Même à ce niveau, il y a un déficit d'action de l'État congolais.
Absolument. L'éducation n'est pas donnée à tout le monde. Parce que la majorité de la population congolaise est analphabète. Et les organisations ont quels moyens pour pouvoir toucher toutes ces populations et pas perdre la République. C'est-à-dire, on fait avec les moyens que nous avons ce qu'on peut faire. Mais cela ne dispense pas l'État de sa responsabilité. Mmh. Ça c'est de un. Et pour revenir à Modeste de Kananga, je crois qu'il a posé aussi un problème que je trouve être pertinent, puisqu'il y a aussi un problème de gouvernance dans ce secteur. Quand il parle de l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, cela ne veut pas dire que lorsqu'on prend un médecin, soit-il professeur d'université, à la faculté de médecine, à la tête du ministère, dont le premier résolu non. On sait comment les choses se font, non pas les gens sur base de leurs compétences ou de leur plan d'action, mais c'est par rapport aux affinités qu'on a avec
le poids politique.
Le poids politique, les relations, et le ministre aussi qui arrive, il doit aussi nommer les chefs d'établissement de son obédience partout. Et cela, il y a les opérations retour qui sont attendues.
Ça n'a rien à voir. Mais quand le système est déjà mis en place, ça ne pose pas de problème. Je crois le principe de continuité de l'État, la continuité de l'État, sera de mise. Quoi.
Non, la continuité de l'État ne veut pas dire cela. La continuité de l'État, c'est-à-dire quand on vient, tout ce lieu qu'on trouve, on fait avec. Parce que l'administration continue, les politiques peuvent se succéder.
Tout ça parce que quand
maintenant,
le système est déjà
efficace. Ce qui se fait quand... Un ministre
quand le système
arrive,
n'est pas efficace,
ben il doit s'assurer que Amama Yemo qui est là, est-ce qu'il m'obéit, il a quelle relation
avec moi. Et vous pensez que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette dégradation de la situation sanitaire au pays?
Non, c'est un des aspects. Cela contribue à la dégradation. Parce que quand vous avez un chef d'établissement qui dirige correctement, il y a même de dire à l'autorité que voilà, chez moi, il y a ça qui ne marche pas, ce qu'on peut faire. Et il peut aussi dire non à l'autorité qui lui demande de faire ce qu'il ne connaît pas de faire. Mais lorsqu'on met un cousin, ou bien un ami, de qui on attend recevoir en retour quelque chose, mais cet ami est assuré de l'impunité. Les sanguinistes peuvent crier, tonner, mais il est toujours parce qu'il a un soutien qui est assuré. Et cela contribue à la mauvaise gouvernance du secteur.
Alors, nous prenions Ismaël et Patient, Ismaël qui est à Lubumbashi et Patient à Kananga, et aussi avant que vous poursuivez avec les interventions, disons les réponses à donner aux uns et aux autres par rapport à cette première série des auditeurs, si vous pouvez peut-être nous faire une idée très claire sur le rapport. Vous avez parlé des hôpitaux, les établissements hospitaliers de Kinshasa. Prenez pratiquement un échantillon pour nous expliquer un peu les vrais problèmes qu'il y a là-dedans.
Oui, nous, on a pris un échantillon, ce ne sont pas tous les hôpitaux publics. Nous prenons ça, le rapport apporté sur les hôpitaux publics. Donc, un échantillon d'hôpitaux publics. Le problème d'abord qu'il y a au niveau d'infrastructures.
Mais nous avons les cinquantenaires, l'hôpital du cinquantenaire, qui est VIP.
Nous en avons parlé. Et je vais chuter par là. Quand nous prenons les installations que nous, les hôpitaux que nous avons, dans les hôpitaux qui ont très vieilli, vous savez, l'hôpital, c'est un milieu où on doit avoir un environnement sain. Au point que le malade qui vient, ne fût-ce que par l'aspect extérieur, il est mis en confiance et il croit déjà à sa guérison. Mais vous trouvez d'abord un problème d'entretien qui se pose.
Ou c'est à l'hôpital
dans
de
dans la
référence.
Plupart d'hôpitaux,
l'hôpital
comme Mama Yemo. Vous allez aux cliniques universitaires, vous verrez qu'il y a même l'eau qui n'arrive pas à l'étage. Mais quand vous prenez un établissement de cette taille-là, où la plupart des cas délicats sont dirigés, et les médecins ou le personnel soignant doit travailler sans avoir de l'eau. Vous imaginez un PC que cela pose complètement au niveau de l'hygiène. Vous arrivez à Mama Yemo. Là, n'en parlons pas. Il y a même des pavillons privés. Et privés, là, c'est aménagé par les privés ou certains partenaires. Et où le coin est beaucoup plus élevé. Et le coût est plus élevé. Quand vous regardez là où le commun des mortels est admis, la dégradation au niveau de l'hygiène est déplorable. Et tu peux venir, toi, accompagnateur en bonne santé du malade,
qui tambo n'est pas épargné.
Vous avez tout de même des installations qui sont abandonnées, qui ne sont pas utilisées parce que il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de lit. Vous venez voir le clinique quinoise.
Voilà, raison pour laquelle les autorités ont pensé et suppléé à toute cette carence en construisant l'hôpital du cinquantenaire.
Bon, là, je crois que moi, c'est un investissement de prestige et de campagne. Ça, c'est politique. Puisque la bonne gouvernance aurait voulu. Quand vous regardez le coût, de travaux qui sont effectués pour faire cela. C'est un investissement louable. C'est fascinant, on encourage ça. Mais on aurait dû mettre un peu de moyens à l'exception des hôpitaux existants pour les réhabiliter, les équiper, de façon que les populations vulnérables qui habitent autour de ces hôpitaux puissent accéder à aux soins facilement et sans avoir besoin d'aller aux cliniques du cinquantenaire. Mmh. Et quand vous regardez aussi par rapport aux équipements qui sont là-bas, le niveau de l'hôpital, quelle est cette population-là de Kinshasa qui aura accès aux soins là-bas? Puisque ça doit fonctionner comme...
On ne reviendra plus sur ce débat parce que le ministre de la Santé a communiqué largement sur la question. En fait, c'est des maladies dirigées, comme vous l'avez dit, orientées. Bon, il y a des spécialités que nous n'avons pas dans notre pays, qu'on va mettre là. Donc, c'est pas vraiment pour tout le monde, mais je crois que le débat, c'est pas à l'ordre du jour. Alors, Ismaël est à Lubumbashi, patient et à Kananga. Ismaël, bonjour.
Bonjour, J.R. Lungembo.
Ismaël, vous avez la parole.
Oui, ma première préoccupation était celle de savoir que selon la santé publique, nous comprenons que le niveau des soins doit être le même, tant qu'à la capitale et à la périphérie. Mais ce que nous remarquerons, nous voyons qu'il y a un peu plus aussi de la négligence dans ce domaine sanitaire. De ce fait, nous remarquerons même que dans ce domaine, il n'y a qu'un échec lamentable, dans ce sens que la plupart des autorités ne se font même pas soigner dans le pays. Et ils n'ont pas confiance des soins de la RDC. C'est-à-dire, ils se font traiter à l'étranger. Nous remarquerons aussi, il y a encore des méfiances des institutions sanitaires. Cela se manifeste, par exemple, au niveau de la capitale, au centre plutôt qu'à la périphérie. Et on n'en tient pas compte. Soit si on prend les données de Kinshasa, on ne peut pas aller à la périphérie. Et cela se justifie aussi dans ce sens ici. Nous voyons par exemple quand on paye les fonctionnaires de Kinshasa, ils ont au salaire plutôt que ceux qui se trouvent à la périphérie. C'est ça ce qui montre, qui engage encore la négligence dans les domaines sanitaires. Faisons un peu la vie les institutions étatiques et les institutions privées. Parmi ces deux, les institutions privées fonctionnent mieux que les étatiques. Nous comprenons que on va avoir aussi la même mise sur la santé de la population. Et remarquerez aussi qu'il y a une négligence entre la communauté. En plus de la communauté, peut-être qu'ils peuvent censurer les éléments de la vie de la communauté. Nous avons le relais communautaire et la cause. Et dans ces deux étapes, on peut faire le recensement sanitaire, après le recensement l'éducation sanitaire dans la communauté, dans les différentes zones de santé. Et en plus de cela, on n'engage pas plus de personnes dans ce domaine. Nous voyons que la plupart des personnes cherchent à trouver les moyens par lesquels ils peuvent s'inclure dans la santé. Mais en plus de cela, il n'y a qu'un échec que nous ne comprenons pas. Comme préoccupation, moi, je pensais que l'État prenne d'abord en charge de ce qui fonctionne. Par exemple, nous encourageons l'État, nous voyons qu'il y a les vaccins, après le vaccin, il y a différentes campagnes qu'on organise, mais souvent, il n'y a pas de suivi. Mm-hmm. Si on peut des suivis, on met par exemple le budget, à rentrer en fait dans l'état du budget de la santé, pour la Première République, la Deuxième, la Troisième et la Quatrième, la santé présente combien de budget? Nous voyons que c'est néant. Ceux qui travaillent, ce sont des bénévoles en détail. On ne peut pas dire que la santé a échoué, mais nous cherchons à ce qu'on renforce la méthode pour que la santé puisse aller de l'avant. C'est ça ce qui était comme mon intervention.
Voilà, merci beaucoup Ismaël, mais il ne faut pas oublier non plus que la loi financière est en évolution. Voilà, il y a vraiment un accroissement de cette loi depuis 2008. Et à ce titre, il y a quand même la part allouée de certaines rubriques qui connaissent quand même quelques changements. Je crois qu'au niveau de la santé, le souci est qu'à l'avenir, on puisse avoir une part allouée très considérable, permettant donc de pouvoir résoudre ces différents défis. Merci beaucoup Ismaël d'avoir appelé.
Sinon, il faut s'efforcer aussi pour atteindre ces objectifs-là. Oui. C'est ça le mot-clé. Il faut s'efforcer à atteindre l'objectif dans les domaines sanitaires. Les soldats, oui. Bon, la confirmation, c'est ça ce que nous en cherchons.
Merci beaucoup Ismaël. Patient, vous êtes à Kananga. Bonjour et merci de nous rejoindre.
Merci beaucoup, J.R. Lungembo. Je veux rappeler que c'est patient lombard dans la zone de santé de Demba, précisément à Zapo.
Vous avez la parole, patient.
Oui, merci. Ce rapport est sorti, c'est avec plusieurs causes, mais moi, je veux simplement énumérer quelques-unes. Premièrement, vous savez, il y a au Congo, si il y a un malade qui peut, par exemple, accéder au soin, c'est peut-être 30, 40, 50 kilomètres pour accéder aux soins. Et il y a les autres là qui se négligent pour dire que, bon, une fois que je quitte par là, je pars et puis on me demande de l'argent. Et la population n'a pas d'argent, qu'est-ce qui se passe? Et une autre chose, c'est que, vous savez, aujourd'hui au Congo, c'est bien que ce sujet puisse être aujourd'hui au PIA pour donner pour parler. Si je m'abuse pas, les infirmiers aujourd'hui au Congo sont minimisés un peu partout. Hein. Ils sont devenus, comme on dirait, que les déchets, donc des poubelles. Et si on parle aujourd'hui d'un infirmier au Congo, on se base que c'est un petit mendiant, d'une personne qui n'a pas fait de bonnes études. Or, ce n'est pas le cas. Comment imaginez-vous que, depuis 2008 que j'ai terminé, aussi longtemps que je n'ai même pas eu les diplômes, comment expliquer que le ministère de la Santé, qui bouffe l'argent pour les élèves, soi-disant, qui suivent les cours, les systèmes,
mais... Voilà, patience, si on peut aller droit au but, hein. Vous saluez le rapport de l'ASADO, oui. Et qu'est-ce que vous proposez comme recommandation aussi?
Oui, je propose à ce que l'État puisse d'abord mécaniser les infirmiers. Qu'ils mécanisent les infirmiers, qu'ils leur prennent en charge. Comment expliquer que nous travaillons 24 heures sur 24 aussi longtemps qu'on n'est pas bien payé? D'abord, on pourra travailler de quelle façon? Nous mécaniser et qui nous donne...
Voilà, là vous rejoignez l'invité qui parlait tout à l'heure de la rémunération qui est pratiquement liée à la motivation. Hein, voilà. Merci beaucoup, patient. Ogui, vous êtes à Kikwit. Bonjour. Ogui, vous êtes avec nous, vous êtes à Kikwit, bonjour. Ok, on prend Dr Richard qui est à Kinshasa. Dr Richard, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, bonjour JR, bonjour à tout le monde.
Vous avez la parole, Dr Richard.
Merci beaucoup. À l'introduction, je dis ceci, le rapport de la SADO est maigre. C'est un rapport parlant de la santé, mais qui n'a regardé que les institutions de santé de l'État. J'avais aimé que... La SATO parle, un, de la saleté spectaculaire de la ville de Kinshasa, qui est en amont une source de maladies multiformes. Deux, qu'on parle du logement, pratiquement l'équinois est devenu un pigeonnier, il dort dans des pigeonniers. Et on n'a pas de logement décent. Trois, il fallait que la SATO ajoute à leur observation l'alimentation qui est devenue artificielle, pleine de colorants et de parfumants dans les bouteilles, dans les aliments, etc., source de maladies qu'on appelle aujourd'hui incurables. C'est comme les boissons qu'on nous vend le long des routes, tout ça, tout ça. Personne n'en parle. Quatre, j'avais aimé, au lieu de parler de médicaments seulement, qu'on parle des aliments, les aliments qui sont des médicaments. Aujourd'hui, c'est à la mode qu'on trouve dans les rayons des médicaments, de la banane, qu'on trouve des choux, qu'on trouve des tomates, etc. Ils ont été maigres à tel point que certains rapports dirigés contre les hôpitaux, etc., etc., ça n'englobe pas la santé. Ça n'englobe seulement les soins médicaux dans les institutions de santé.
Oui, docteur Richard.
Il fallait que la SADO regarde aussi les institutions privées. Quelqu'un fait des éloges des institutions privées. Moi, j'aimerais que le colonel conseiller du commandant de peine de la ville parle. Il a été avec moi au siège de l'ordre médecin, le jour où on avait malheureusement coupé le courant au siège national, il a parlé comment, lui qui est de service de sécurité, les centres de santé, hôpitaux privés, etc., sont des mouroirs non contrôlés. Il fallait qu'on en parle. Alors, maintenant, pour appuyer ce rapport que je ne détruis pas, quand il parle de la formation, vous savez que beaucoup de gens sont devenus des médecins, d'autres spécialistes en santé publique comme moi, par mes propres efforts. Ce n'était pas planifié. Et même quand vous planifiez, ce n'est pas prévu. C'est comme aujourd'hui, la population est en train de vieillir. On ne parlait pas de gériatres, ça n'existait pas. Que la SADO ouvre les lignes de crédit pour les études, moi je viendrai me faire inscrire. Et puis, pour la formation, vous savez que les déontologies professionnelles dans différentes professions des soins de santé, etc., sont dépassées. Il fallait qu'ils parlent de la bioéthique. Et puis, pour la formation, il y a aussi des formations parallèles pour appuyer ce qu'on est en train de faire. C'est comme j'ai fait l'analyse de projet, qu'on ouvre les lignes de crédit pour les autres, au lieu de parler. J'appuie tout ce qu'ils ont vu, mais c'était maigre. D'accord. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, docteur Richard. Nous revenons à vous, notre invité, Jean Keba. Vous êtes le directeur en charge de la protection des droits de la santé. Donc, vous êtes avec nous hein, pour le compte de la ZADO. Voilà, nous prenons d'abord le dernier auditeur, docteur Richard, et puis nous remontons.
Ok, merci. Je salue docteur Richard pour son intervention, ses critiques, recommandations. D'abord, je voulais dire ceci. Il a vu juste que le rapport est maigre parce que nous n'avions pas la prétention de pouvoir dégager dans ce rapport tous les problèmes de la santé. Parce que ça nous aurait coûté suffisamment de temps, des moyens. Et même le peu que nous avons, c'est avec beaucoup de difficultés que nous avons eues parce que l'accès à l'information n'a pas été facile. Le rapport lui-même dit bien, il a porté sur un échantillon des hôpitaux publics. Cela ne veut pas dire que les établissements privés sont des exemples à suivre. Peut-être que le moment viendra où nous pourrons encore faire une autre enquête par rapport aux conditions d'accès aux soins dans les hôpitaux privés. Mais pour ce cas, nous avons voulu juste nous occuper des hôpitaux publics pour voir ce qui s'y passe, comment cela est organisé. Car ce sont des établissements qui dépendent de l'État, qui appartiennent à l'État, qui sont censés être pris à charge à 100% par le gouvernement.
C'est pas une façon de tirer à boulet rouge sur le gouvernement.
Nous ne tirons pas à boulet rouge sur le gouvernement. Nous avons fait le constat. Ce sont les faits que nous avons vus, qui sont vérifiables, qui peuvent être constatés aujourd'hui même où nous parlons par n'importe qui. Et c'est pourquoi tout le monde s'accorde par rapport que nous avons vu vrai. Mais nous n'avons pas l'ambition d'attaquer le gouvernement. Si nous avons inventé ou déformé les faits, on nous ferait des reproches. Par rapport à la formation, je respecte bien l'opinion du docteur Richard. Je crois que si la ZADO a eu à parler ainsi sur ces faits-là, c'est plus beaucoup de médecins et infirmiers qui s'en plaignent. Certains estiment qu'ils ont été formés dans des meilleures conditions. Et que les jeunes qui arrivent aujourd'hui, beaucoup viennent des établissements non fiables, où ils doivent beaucoup apprendre et commettre aussi beaucoup d'erreurs dans leurs prestations. Donc ce n'est pas à nous, nous ne sommes pas un bailleur de fonds pour allouer des crédits formation, mais il revient au gouvernement, compte tenu du constat qui est fait, des besoins qui sont constatés, comment faire des réformes pour la formation à donner aux infirmiers et médecins. D'abord au niveau du programme académique, au niveau même des conditions que doivent réunir les établissements qui organisent ces enseignements, et aussi pour ceux qui sont déjà en fonction, comment on doit assurer continuellement des formations, on peut les amener à la spécialisation par exemple. Mais ça, c'est une politique qui revient au gouvernement.
Là encore, il faut des réformateurs. Hein. Il faut un réformateur. Non, faut les désigner.
Là, pour dire, voilà. Les réformateurs sont là. Ils existent. Tous les Congolais ne sont pas bêtes. Il y a des Congolais compétents qui connaissent bien leur matière, qui peuvent aider. Mais le problème, c'est que le gouvernement, souvent, s'entoure des politiques ou les gens qui font la propagande et qui ne peuvent pas leur donner des conseils fiables. Mais encore qu'il faut d'abord vouloir réformer afin de pouvoir faire le choix des bons réformateurs. Ils existent, même au Congo, on sait les trouver. Par rapport...
Patient de Kananga, et puis Ismaël, qui a parlé de la santé aussi, et puis Théophile, qui était revenu sur les personnels soignants vieillissants. Il faut promouvoir la mutuelle de santé, voilà.
Oui, tout ça, ce sont des faits qui relèvent de la politique. Parce que la santé publique, c'est une responsabilité du gouvernement qui prépare la politique appropriant le secteur et du Parlement qui sanctionne cette politique-là. Il ne revient pas aux organisations comme les nôtres de pouvoir décider de la politique. Nous, nous constatons, nous tirons la sonnette d'alarme et nous invitons l'autorité à pouvoir s'y pencher pour donner une réponse qui convient. Ce sont, comme vous l'avez dit, ce sont des faits qui sont connus. Mais ils sont connus, on n'en parle pas assez. Mais quand nous en parlons, c'est pour appeler l'autorité qu'il y a des choses intolérables qui se passent.
Oui.
Il faut aller.
Alors, nous avons Edgar qui est à Kananga. Edgar, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Edgar.
Voilà. La politique sanitaire dans notre pays est basée sur la stratégie des soins de santé primaires, qui, selon la définition de l'OMS, sont des soins essentiels, indispensables pour la population et qui doivent être scientifiquement valables, accessibles sur le plan géographique, financier, social et culturel, avec la participation de la communauté. Et dans le principe, M. J.R., les soins de santé primaires, on dit que les soins doivent être continus, intégrés, globaux, rationnels et offerts à une population donnée. Ceci me pousse à dire que les soins de santé primaires dans notre pays n'existent que des noms. Parce que si nous avons le temps d'examiner les 8 composantes des soins de santé primaires avec le 3 que notre pays a ajouté, vous allez voir que l'ASADO a pleinement raison et même les rapports de Save Children publiés au début de ce mois sur survivre le premier jour la situation des mères dans le monde. Et dans ce rapport, la République démocratique du Congo est classée 176e et 676 pays où il est difficile de mettre au monde malgré tout l'argent que les partenaires donnent dans ce secteur. Donc il y a un sérieux problème d'efficience et d'efficacité dans la gestion de ces fonds. Maintenant, comme proposition, malgré que le premier auditeur a dit qu'il n'y a pas de réformateur, bon, on ne s'espère pas de proposer, que le gouvernement mette en place un système de subvention des soins, ne fût-ce que pour les femmes enceintes et les enfants. Parce qu'il y a dans certains pays où l'accouchement est parfois gratuit. Alors, il faut aussi, comme on l'a dit l'invité, encourager la création de mutuelles de santé et même mettre en place un système d'assurance sanitaire obligatoire pour les travailleurs. Puis rapprocher les services de santé de la population et combattre la pauvreté. Car nous, les Congolais, nous mourons plus de la pauvreté que de la maladie. Autre les infrastructures, je termine par là, monsieur le journaliste, qu'il faut réhabiliter. Je pense qu'il faut aussi résoudre les problèmes des ressources humaines. Parce que les problèmes majeurs en République démocratique et du Congo avec les ressources humaines, n'est pas lié au nombre, monsieur J.R., mais principalement lié à leur affectation ou répartition. Vous allez remarquer que les jeunes médecins qui terminent ne veulent pas travailler dans les villages, mais préfèrent aller en ville. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport à ce sujet.
Oui, oui, Edgar, est-ce que, s'il vous plaît, Edgar, ne quittez pas encore, parce que là, si nous lisons les rapports, il est dit que la meilleure qualité de ces soins de santé est tributaire de plusieurs paramètres qui sont entre autres politiques, culturels, démographiques, sécuritaires et socio-économiques. Vous partagez cet avis?
Oui, tout à fait, monsieur le journaliste. Dans notre pays, vraiment, si on met en place on applique bien les composantes de santé primaire, vous allez voir que vraiment les rapports les choses, là vont s'améliorer.
Merci beaucoup Edgar d'avoir appelé et aussi d'avoir contribué à la réflexion au cours de ces débats. 081-890-6315.
Écho d'économie sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie, 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Voilà, nous revenons dans ce studio avec vous, Jean Keba, directeur à l'ASADO. C'est vrai, vous avez suivi le tout dernier intervenant qui, au fait, a fait aussi quelques recommandations. Alors, comment réagissez-vous?
Non, je suis parfaitement d'accord avec lui. Ce sont des recommandations qui se passent de tout commentaire. Je crois que ce que nous ça vient réconforter les constats faits par la SADO sur le terrain. Et c'est encore une interpellation par ceux qui ont l'impérium du pouvoir dans le secteur pour comprendre qu'il est temps de pouvoir à ce que l'État congolais puisse s'y pencher, puisque les dégâts sont énormes et la responsabilité est partagée. Ce qu'on a parlé plus de l'État, mais il faut savoir aussi que les médecins, les infirmiers ne sont pas épargnés. Parce qu'il y a, nous avons des pratiques que nous avons peut-être constatées, ce qu'on appelle pharmasac, où l'infirmier a ses médicaments dans le sac pendant qu'il est en train de s'occuper des malades, et quand il faut prendre faire une ordonnance, et l'ordonnance est faite souvent en fonction de ce que lui fait les affaires. Et avec ça, c'est la vie des personnes qui sont en danger. Il y a le serment d'Hippocrate aussi que les médecins doivent respecter. Bien que leurs conditions sont très très difficiles, leurs conditions de travail, je voulais dire, mais ils doivent d'abord s'occuper des personnes qu'on amène devant eux. On a vu à Mamayem certaines personnes succomber à la consultation parce qu'il fallait au préalable d'abord qu'on paye les frais des fiches et avant de pouvoir consulter le malade, alors qu'on amène quelqu'un qui est dans un état d'urgence, qui demande une intervention immédiate pour pouvoir le soulager avant de voir qu'est-ce qu'on peut faire par la suite. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Il y a aussi
de
la responsabilité. Quand vous regardez le nombre de décès, là c'est pour ceux qui arrivent dans les hôpitaux. Et en termes de la population, c'est un pourcentage qui est faible. Le nombre est assez alarmant. Mais c'est que nous constatons que le corps médical ne s'en préoccupe pas. Puisque ailleurs, quand il y a un décès dans un hôpital, le conseil s'est réuni, on doit examiner, chercher la cause. Et la justice aussi, chaque fois qu'il y a un décès, doit ouvrir des enquêtes pour comprendre si c'était une mort normale ou bien due à une faute médicale. Voilà
Jean Keba, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Un Kudam disait, aux côtés du serment d'Hippocrate, il y a aussi les testaments d'Hippocrate. Donc on peut dire, et c'est vrai que de tout ce que nous demanderons aux médecins, il faut aussi les motiver. Il faut motiver les gens qui travaillent dans les secteurs pour qu'ils arrivent à rendre réellement les travail comme il faut. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
Merci JR.
Allô? Allô? Je m'appelle Robert. J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci à vous tous qui avez participé à ces débats. Merci également à Dieudonné Diangasanon, je parle plutôt de Paul Badianiam, qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Poutou et Pierrot l'ont réalisé. Gérard Lugembo vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Nicole Ngakar. Écoutez cette émission sur www.radiocapi.net. Dans les cadres de la lutte contre l'incivisme routier et l'assainissement du secteur du transport routier, plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement congolais. L'acquisition des près de 300 bus et sa mise en circulation pour les transports en commun dans les prochains jours témoigne l'engagement de l'autorité de transport et voies de communication de lutter contre les accidents des routes. Alors quel bilan faire à mi-parcours? Rendons-nous demain, disons, pour les débats.